Jean-Christophe Averti, que je n'ai pas vu depuis des années, c'est un personnage inquiétant par son intelligence pratique et qui est rare dans ce métier, je tiens à le dire. Cela dit, il m'a demandé de présenter mes chansons. Ça ne m'arrive pas, je ne peux pas présenter les choses que je fais. Hein, ça ne m'intéresse pas de présenter les choses que je fais. Regardez ça, voilà, c'est ça, maintenant, c'est super, tac. Bon, ça, c'est merveilleux, tac. Non.
Lucien Liot, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, est-ce que vous êtes allé en Toscane, vous connaissez la retraite de Léo ?
Non, je ne connais pas la retraite de Léo, et c'est, je le regrette d'ailleurs. Léo, la dernière fois que je l'ai rencontré, m'a dit de venir un jour, mais il faut partir, il faut y aller, et ça n'est pas si simple. Ça fait quand même pas mal d'années que tu es parti en Toscane, Léo.
Oui, ben, ça fait 20 ans.
20 ans ?
Ouais.
Oui. Tu y es retourné pour retrouver à la fois le soleil et tes origines.
Oh non, moi je n'ai pas décidé comme ça. Je suis retourné parce que il fallait mieux que je m'en aille de chez moi, de la France, en ce moment-là, pour des raisons personnelles.
Dites-moi, Léo Ferré, c'est vrai que lorsqu'Averti... Ah, vous m'entendez, là ?
Oui.
Quand Averti est venu vous trouver, c'est vrai que vous lui avez dit, c'est maintenant que vous m'appelez ?
Comment ? Ah oui.
Mais pourquoi ? Vous étiez étonné que ça soit si tard ?
Il y a des années que je n'ai plus entendu,
Jean-Christophe, comment ça se fait, c'est vrai ? Comment ça se fait que vous avez mis si longtemps à consacrer une émission
le hasard a mal fait les choses, c'est tout. Mais pour les Beauferré, je gardais l'ambition d'avoir sa tête accrochée en trophée, mon palmarès.
Mais l'ambition, t'as attendu,
Oui, d'accord, ok, vous n'allez pas me faire un procès pendant 107 ans, vous l'avez déjà dit au moins 3 ou 4 fois.
J'ai beaucoup d'estime pour toi, je t'aime beaucoup, alors...
Je vous aime aussi.
Mais Léo Ferré, c'est la première émission de télévision qui vous est entièrement consacrée.
Et oui, et puis à cette heure-là.
Oui, à l'heure de bonne écoute, oui.
Hein?
À une heure de bonne écoute.
Excellente écoute, oui.
Vous expliquez ça comment ? Vous pensiez que la télévision avait peur de vous ? Quel est le...
Je sais pas, vous savez, les types qui sont derrière, qu'on voit jamais, qui sont les meneurs de la télévision, ont des questions de date et tout ça. Il y a des années... Ce type qui s'appelait, j'ai plus, sa femme était speakerine, Saba qui s'appelait. Il avait dit un jour, je veux pas voir Ferré en direct. Vous vous rendez compte ?
Pourquoi ? Parce qu'on avait peur de ce que vous pouviez dire.
Je ne veux pas voir Ferré en direct. Alors moi, quand je l'ai vu en direct, ce type, tu dis peut-être t'as la gueule qui ressemble à ce que t'as dit. Oh là là là. C'est pas possible, quoi. Les gens... ont des problèmes incroyables, quoi. C'est vrai. Et puis alors, le métier tel qu'il se fait en ce moment, ça me dégoûte, vous ne pouvez pas savoir. Moi, je suis en Italie, je vois un peu la télévision, forcément, un peu le soir, mes gosses la regardent, etc. Il y a un type qui avait gagné un truc à San Remo il y a 2 ou 3 ans, il s'appelle Ramazzotti. Ce type, il s'est appelé Eros. Eros Ramazzotti. Alors, ma fille m'a demandé ça, que ça veut dire Eros. J'ai dit, écoute, ça veut dire amour. Et alors... Ce que fait ce type, c'est mauvais, quoi. Ça n'existe pas, quoi. C'est vaguement américanisé, parce que tout s'américanise maintenant. C'est très grave, vous savez ce qui se passe. C'est très, très...
Justement, Léo Ferré, comment ça se fait qu'il y a si peu de chanteurs en France qui ont fait comme vous, c'est-à-dire qui ont puisé dans les grands poètes français, Baudelaire, Aragon, Rimbaud ? Comment vous expliquez ça ?
Eh bien, écoutez, il y a des gens qui ont du talent, des gens qui n'en ont pas. C'est tout. Hein ? Voilà, c'est tout.
Vous pouvez nous redire ce que vous avez dit dans l'émission de Jean-Christophe sur Rimbaud ?
Oui.
Qu'est-ce que vous aimez en Rimbaud ?
Rimbaud, c'est fantastique, non ?
D'abord, il s'appelle Arthur.
Il pourrait naître demain matin, il serait vraiment de notre époque, quoi. Voilà.
Mais c'est un homme révolté qui a été, au fond, il a été brisé par la vie.
Brisé par la vie, et puis je crois qu'il a été brisé aussi par la jeunesse qu'il a écrit ces choses-là, il avait 15-16 ans, quoi. C'est pas fantastique. Et après, je crois que ça s'est arrêté. Alors, il est allé en Afrique faire la chasse, quoi. Moi, ce qui me gêne dans Rimbaud, la seule chose qui me gêne dans Rimbaud, c'est qu'il y a une photo qu'on présente avec un fusil et un copain à lui. Et c'est un éléphant mort qui veut tuer un éléphant, quoi. Voilà. Alors, ça ne lui ressemble pas.
Oh, mais Ferré, il ne faut pas lui en faire un procès pour ça, non. Non, Rimbaud est intouchable, vous savez bien.
Quoi, oui.
Irrécupérable.
Hein ?
Il est irrécupérable, Rimbaud, comme Ferré, pareil.
Oui, d'accord, mais vous me parlez de ça auprès de Rimbaud, alors je vous le dis.
Ok, d'accord, mais oubliez cette photo.
Jean-Christophe Averti, c'est pratiquement une version de collection, ça.
Ah oui, c'est original, c'est tiré directement de la bande de l'émission. Alors, non, collectionneur à vos cassettes.
Léo Ferré, vous avez des propos très énigmatiques dans cette émission. À un moment, vous dites, à qui parlait Baudelaire ?
Oui.
Alors, à qui parlait Baudelaire?
Oui, ça c'est vrai, j'avais mis la... J'avais lu, quoi, la poésie je te donne ces vers. En étant tiens, Baudelaire nous donne ses vers, je donnerai donc les vers de Baudelaire au public avec la musique que j'ai tout à fait humblement mise sous les vers. Et j'ai essayé de comprendre, j'ai demandé à Jean-Christophe à qui il parle, quoi. J'étais un peu embêté, je ne me rendais pas compte, il m'a dit « parle à la mort ». Alors ça, je ne savais pas.
Jean-Christophe, la petite explication supplémentaire, quand même.
Non, mais écoutez, ce poème, je le connais depuis 17 ans. Je l'ai appris. Et effectivement, ce grand ange au fond des rangs, c'est la mort.
Ouais. Oui. Léo Ferré, tout commence pour vous difficilement, en fait. Hein, Saint-Germain.
Oui.
Saint-Germain-des-Prés, c'est la galère. C'est quoi? C'est quelle époque, ça? C'est 46
48. C'est la galère parce qu'on ne gagnait pas sa vie. Hein.
C'est-à-dire, vous dites que vous étiez payé avec rien, quoi. Combien vous gagnez à l'époque?
La première fois, j'étais sous dans une cave où, quand il y avait 40 personnes, c'était plein à craquer. Je chantais le soir quand m'accompagnait au piano. Et pendant 3 mois, je n'ai pas été payé du tout. Vous comprenez? Du tout. Pas un centime.
Vous avez maigri, comme c'est très bien, ça, vous avez gardé une ligne terrible.
Oui, mais enfin, quand même, c'est pas drôle.
Oui, j'ai connu Saint-Germain-des-Prés là aussi.
Mais ce qui est bien, c'est que vous dites, au fond, ça aurait pu aussi bien être Pantin, ce qui sous-entend que c'était quand même d'abord et avant toute chose un quartier à la mode.
C'était un quartier à la mode, fait à la mode. Tant que Montparnasse avait été fait à la mode par les surréalistes et les peintres après 1919, quoi.
Et la clientèle qui a suivi n'était plus aussi délurée, aussi intelligente, c'était tout à fait différent. Ceux pour qui vous chantiez à cette époque-là, c'était qui?
Je chantais, moi je me rendais pas compte, hein. Je ne me rendais pas compte. Je chantais, en tout cas, je chantais une chose qui m'avait frappé, c'est que je chantais une chanson qui s'appelait Mon Général. Vous savez, vous imaginez ce dont je veux parler.
Ah oui, avec une chanson qui faisait quelques ennuis, d'ailleurs.
À la Martinique, en 47. Mm-hmm. Alors, il y avait des gaullistes qui venaient, ils souriaient, ça leur plaisait, parce que je n'insultais pas le général, quoi. Mais il y en a un, il était devenu 2 ou 3 fois, il était malade, comme un singe malade. Vous savez, à qui on a gratté un peu la peau par derrière. Et c'était le fils de Mauriac.
Claude Mauriac. Ça, hein? Claude Mauriac.
Oui, alors il était avec des gens, des amis à table. Ses amis riaient, ils étaient contents. Lui, il râlait comme une vieille toupie, quoi.
Et à l'époque, Léo Ferré, vous chantiez des chansons de vous, que vous composiez, ou vous chantiez des textes des autres?
Ah, je chantais quelques textes des autres, mais je chantais des gens à moi, quoi.
Léo, nous écoutions cette chanson.
C'est
et
sérieux.
Nous disions qu'en dehors de la beauté de tes textes, tu es aussi un musicien assez exceptionnel. Tu as toujours vécu dans la musique.
Oui, je suis tout petit. Je chantais à l'église. J'avais 7 ans et demi. J'étais soprano dans la chorale. Et alors là, j'ai découvert, quoi, je me disais dire. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les disques, il n'y avait rien du tout. Il y avait peut-être le phonographe, qui dit, moi, je n'avais rien du tout. Je n'avais pas la musique que je pouvais entendre. Il fallait que je mette ma petite pèlerine, que j'aille à l'église. Et j'entendais de la musique que nous chantions, nous autres, quoi. Et ça m'a fait découvrir la musique, c'était fantastique.
C'est une passion qui ne t'a jamais quitté. Et tu l'as toujours cultivée en lisant tes préférences et tes refus. Je me souviens d'une émission que tu devais faire il y a quand même pas mal d'années. Je crois que c'était pas encore France Inter, c'était Paris Inter.
Oui.
Et qui s'appelait Musique Byzantine.
Oui, oui.
Et dans laquelle tu réglais un certain nombre de comptes, autant que je me souvienne.
Oui. Oui, d'accord. Je disais ce que je pensais des choses, quoi. Et des musiciens, quoi.
Mais ce qui est super dans l'émission qu'avait réalisée Jean-Christophe Averty, c'est quand vous parlez de cette séance avec Von Karajan, vous assistez à une direction d'orchestre avec l'orchestre en playback.
Et oui, mais à ce moment-là, je ne l'ai su qu'après. Ben, il a coupé un truc. Moi, j'ai expliqué comment je l'ai su, je crois. Je l'ai su par un assistant de Clouzot, parce que Clouzot avait fait ses cassettes vidéo avec un accord et en collaboration avec Karajan pour vendre la musique en cassette, vous voyez.
Non, Léo, je n'ai rien coupé. Donc, moi, je n'ai pas coupé cela, en tous les cas. Vous ne me l'avez point dit.
Ah, maintenant, bon,
vous venez de vous rattraper, là.
Je vous le dis, c'est 2 ou 3 ans après que j'ai appris par l'assistant à qui je parlais, on mangeait ensemble, ce qu'on avait fait ensemble, et il me dit, alors je raconte l'histoire, il me dit, bah, c'était d'autant mieux que c'était en playback. Ça m'a assassiné, ça.
Vous ne portez pas dans votre cœur, si j'ai bien compris, les chefs d'orchestre en général.
Non, parce qu'avant c'était bien, vous savez, ils faisaient vraiment leur métier. Il y avait un violoniste, il y avait un alto, il y avait la contrebasse, les cordes, tout ça, les cuivres, et puis il y avait le chef d'orchestre qui apprenait aux musiciens à lire la musique bien comme si les musiciens eux-mêmes l'avaient écrite, n'est-ce pas? Et alors, maintenant ça a changé. L'autre jour, j'ai vu il y a quelques mois, sur un journal italien qui s'appelle La Repubblica, alors un gros titre, La Messa di Mozzi fait fantastique. Et Mozzi, c'est un chef d'orchestre, vous comprenez? Alors la messe de qui? J'ai cherché à savoir la messe si c'était celle de Verdi ou de Requiem et de Mozart. Ah, j'ai pas trouvé, quoi.
Quand vous avez dirigé Padeloup, comment ça s'est passé? Bien, très bien.
C'était bien. J'ai dit un jour à des musiciens, si Beethoven est mort depuis longtemps maintenant et il vous a laissé ses musiques, si il faut que vous soyez Beethoven en jouant Beethoven, sinon c'est pas possible.
Alors, Léo Ferré, dans les rencontres qui vous ont marqué, il y en a une qui, je crois, était très importante, c'est Louis Aragon.
Louis Aragon, oui.
Parlez-nous un peu de Louis. Comment vous l'avez rencontré pour la première fois et comment vous avez été amené à mettre en musique un des plus grands poètes français?
Je ne sais comment, dans une espèce de soirée politico-poétique, enfin, je ne m'en souviens pas. Et il était sympathique, mais je ne le connaissais pas beaucoup. Et un jour, je suis allé à Saint-Germain-des-Prés. Dans une librairie qui est importante là, entre les deux grands cafés, et j'ai acheté le livre qui venait de paraître d'Aragon, qui s'appelle
Le roman inachevé.
Alors là, je suis rentré à la maison, j'ai mis en musique 10 chansons, 10 poésies, immédiatement. Alors comme je l'avais vu qu'une fois, deux fois, j'ai téléphoné à Catherine Sauvage qui le connaissait beaucoup mieux que moi, en lui disant est-ce que tu peux dire un rendez-vous à Aragon. Alors il me téléphonait. Alors il m'a téléphoné et je lui ai dit, est-ce que vous voulez venir écouter la musique que j'ai écrite sur vos poésies? Alors il est venu avec Elsa et ça lui a plu, bien sûr. Alors il y a une chose qui m'avait frappé, c'est qu'il me dit, à la fin, il me dit, ou le lendemain ou le surlendemain, on s'est vu quelque temps après ça, il me dit, vous savez, Léo, il y a 45, au moment où il m'a dit 45, vous savez, souvent la tête de celui qui écoute va plus vite que celui qui parle. Alors, il me dit, il y a 45, alors je me suis dit, il y a 45 poésies qu'on a mis de lui en musique. Non, il me dit, il y a 45 musiciens qui m'ont mis en musique.
Non, vous étiez le 46e.
Ah là là, tais-toi, fais rigoler ça.
Léo Ferré, Louis Aragon, c'était le mentir vrai, c'était un personnage complexe.
Comment? Non, c'était un type formidable.
Oui, mais en fait, c'était le mentir vrai, comme je veux dire, c'est immense poète et en même temps restant dans un parti totalitaire après les crimes staliniens.
J'ai jamais compris. Je crois que c'était Elsa, quoi, c'était la Russie soviétique qui l'avait embringué malgré lui, quoique je pense qu'on ne lui a rien demandé, jamais. Et un jour, un soir, on avait dîné avec sa femme, et puis la sœur d'Elsa, qui était la femme qui avait été la femme
Mayakovsky. De Mayakovsky.
Et ça m'avait intéressé beaucoup, ça. Il m'avait toujours mangé dans des restaurants russes, c'est là que j'ai connu le porc, hein. J'ai dit ça parce que c'est la seule chose que je mangerais si j'allais là-bas. Et je crois qu'il était pas, au fond, il n'était pas communiste. Il s'est laissé avoir par qui, je ne sais pas.
Moi, je me souviens d'une fois où je l'avais rencontré peu de temps avant sa mort, d'ailleurs dans son appartement, et il m'avait dit, je ne sais plus à propos de quoi, à propos des Russes, d'ailleurs, et des Soviétiques, il a dit, tu sais, ce sont des fascistes. Et puis, comme il savait que j'étais journaliste, il m'avait dit, l'avantage de ce que je viens de te dire, c'est que si jamais tu le publies, je démentirais. À propos de l'affiche rouge, Léo Ferré, je crois que Louis Aragon vous avait dit je n'ai rien changé à l'esprit de Manouchian, mais qu'est-ce qu'il entendait par là?
Non, il voulait dire que Manouchian avait effectivement dit tout ça. La seule chose qu'avait fait Aragon, c'est de mettre en vers.
Oui, c'est ça. Je crois que c'était une lettre, d'ailleurs, de Manouchian.
Oui, je crois, oui.
Parce c'était que sa dernière lettre,
oui,
à sa femme.
Sa dernière lettre. Manouchian était le chef d'un des commandos de la Moille, dont on sait beaucoup que ce sont les derniers qui ont combattu dans Paris, oui. Au moment des années noires, lorsque les FTP... Français ont été complètement éliminés. Et en fait, c'est la Moille, c'est-à-dire des étrangers, des Arméniens et des Juifs, qui ont supporté l'essentiel des combats de la résistance à cette époque.
Oui, oui.
Mais dites-moi, Léo Ferré, on a lu quelque part, je crois que c'est dans Paroles et Musique, que vous avez dit « Je n'ai jamais été un politique ».
Un politique ?
Oui.
Ah non ?
Qu'est-ce non, que c'est une interview que vous avez accordée à Paroles et Musique en 1987. Alors, à une question, vous répondez « Je n'ai jamais été politique ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Je n'ai jamais, comment dirais-je, mis mes idées au service d'un arrangement politique dans la rue ou je ne sais où, quoi.
Mais oui. Vous avez bien des opinions, ou des idées, en tout cas, des idées politiques, vous avez.
Des idées politiques, alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là.
Mais je veux dire, la politique, ça vous concerne, ça vous intéresse, ou vous rejetez tout ça en
la
bloc ?
Je crache dessus, n'est-ce pas ?
Et d'ailleurs, il me semble que dans les années 70, Léo, vous avez, les gens considéraient que vous aviez un véritable engagement, parce que ça ne se passait pas facilement. Je me retourne vers Lucien Rioux, qui se souvient de cette époque.
Oui, je me souviens qu'au moment d'une de tes tournées avec le groupe Zou à Marseille...
Oh là.
Qu'est-ce que c'était le groupe Zou,
un mot ? C'était un groupe pop, on disait à l'époque. Tu t'es fait accompagner par un des meilleurs groupes pop de l'époque. Et tu as eu quelques problèmes à Marseille extrêmement violents.
Partout.
Il y avait un personnage particulièrement pittoresque, qui est Jean Edernallier, qui avait d'ailleurs, je crois...
Saloperie, hein. Pas pittoresque.
Il avait en scène, il avait demandé qu'on... Je sais pas quoi, qu'on boycotte, c'est
pavés,
ça.
Non, on jette des pavés.
Il avait fait un appel au meurtre. Et ça avait marché. Ça avait marché, moi j'ai failli tout lâcher. Pendant une tournée, je sais pas, 14, 15, 16 villes, c'était abominable.
Mais qu'est-ce qu'on vous reprochait exactement ?
Allez savoir, d'être intelligent peut-être. Et de ne pas être vendu, voilà.
Non, parce qu'à l'époque, effectivement, c'était le grand mot d'ordre dans ces groupes-là, c'était la scène au peuple. Alors, on vous reprochait de faire payer les entrées à vos spectateurs, c'est ça ?
Écoutez, les plus d'entrées, c'était 10 francs, dites. C'est pas terrible. Hein.
Oui, effectivement. Oui.
Il faut pas déconner. Hein.
Léo Ferré, à part vous, quels sont les chanteurs qui, aujourd'hui, chantent la révolte ? Est-ce qu'il y en a ?
Je crois pas, non.
La Villiers,
oui. Puis les Américains aussi, oui.
Et Renaud ?
Oui.
Renaud, vous aimez ?
Renaud, oui, c'est pas mal. C'est pas mal.
Et dites-moi, qu'est-ce que devient l'homme révolté dans un monde où on ne parle plus que de fric, de parts de marché, de marketing là ? Qu'est-ce qui reste du rêve révolutionnaire ?
Bah, vous savez, hein, ça. Quand on voit ce qui vient de se passer dans l'Est, on se dit qu'on peut plus faire de projet, quoi, de ce côté-là. C'est possible. Les gens, ils ont faim, quoi. Ils en ont marre de se mettre sous la houle d'un type qui prend le pouvoir. Parce que tous ces gens qui ont le pouvoir ne pensent qu'à leur pouvoir. Ils ne pensent pas à autre chose.
Alors, puisqu'on est dans la nostalgie, on a trouvé un document dont on ne sait pas très bien ce que c'est, mais vous allez sûrement le reconnaître, où vous allez entendre Jean Gabin. Jean Gabin et Léo Ferré. Et je crois qu'il s'agit des sacs et des cordes. Vous allez me dire. Vous écoutez d'abord et vous allez me dire ce que c'est.
Oui, oui.
Décidé de me fixer définitivement à Londres.
Alors, Léo, qu'est-ce que c'est, ça ?
C'est deux sacs et des cordes, c'est une émission que j'avais écrite en 1951.
Janvier 51.
Donc, Christophe, c'est toujours.
C'est un document INA.
Toujours été enterré, c'est comme ça, quoi. Il y a un Gabin fantastique. Ce qui était mauvais dans cette émission, parce que c'était encore l'époque où il y avait l'enregistrement un peu... pas tellement bien foutu, quoi. Mais ce qui était extraordinaire, c'est la voix de Gabin, quoi. La voix de Gabin qui n'avait pas changé, qu'on retrouvait.
Alors, parlons un petit peu de la musique d'aujourd'hui, en particulier du rock. Là, j'imagine que vos enfants aiment bien le rock. Qu'est-ce que vous pensez de la dictature du rythme dans la chanson d'aujourd'hui ?
Mais la dictature du rythme, c'est américain, hein, vous comprenez, c'est comme ça, quoi.
Oui.
Le rocking chair. Moi, j'appelle ça le rocking chair. Moi, j'engueule mes gosses à la maison parce qu'ils ont tous les trucs. Je comprends pas du tout. Ils m'écoutent pas moi, ils écoutent le rock. Hein.
Pour vous, ça n'est pas une musique, c'est du bruit, oui, si je comprends bien.
Non, c'était fantastique. Je sais pas, ça c'est extraordinaire. C'est un truc que je comprends pas très bien. C'est africain d'origine, quoi. De la belle Afrique. Un jour, il y a un journaliste qui m'a demandé, qui m'a dit il y a quelques années, mais vous savez, l'Amérique, la musique qu'ils font, c'est fantastique. La musique, je dis, mais quelle Amérique ? Vous voulez parler à l'Amérique des esclaves ? Hein ? C'est vrai. Parce que sans l'Amérique des esclaves, Gershwin n'existerait pas. Cole Porter n'existerait pas.
D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que les jeunes, aujourd'hui, apparemment, reviennent au jazz.
Reviennent au jazz, vous croyez ?
Ah ben, on va demander à Jean-Christophe. Jean-Christophe.
Mais vous savez, ils ne reviennent pas, le jazz continue. Oui. Malgré les modes, et la vraie musique, celle qui swing et celle qui est afro-américaine, marche toujours. Vous l'aimez bien, Léo ?
Oui, d'accord.
Mais... L'Amérique n'a pas que des défauts, mais on nous envoie à consommer ici, pour qu'on le consomme, que de la merde.
Hein.
Que de la merde, généralement.
Et
voilà.
Oui.
Et voilà, c'est ça de, contre quoi vous gueulez. Et vous avez raison. Mais la musique, la littérature, le cinéma américain, une partie de leur télévision sont excellents. Oui. Mais seulement, on nous fait bouffer les miettes du repas américain. Voilà le problème.
Et
oui, c'est ça dont nous sommes victimes.
Je veux dire que les Américains n'auraient rien fait, c'est pas eu les nègres avant qu'ils avaient pris comme esclaves.
C'est exact, c'est la seule justification de l'esclavage, c'est le jazz.
Voilà.
Lucien Rioux.
Je voudrais quand même dire quelque chose à Léo. Est-ce que, quand même, il n'y a pas dans cette appropriation du rock par les jeunes une tentative pour se différencier des anciens? C'est une forme abâtardie, mais peut-être réelle, de la révolte des jeunes, non?
Non.
Tu crois pas?
Il y a quand même eu dans les au début, par exemple, les Rolling Stones et d'autres groupes britanniques.
Oui,
non, mais il y a eu quand même dans le contenu des chansons, il y avait quand même une protestation qui était très forte et qui s'est affadie depuis.
Oui, mais ça avait du talent. Oh, fantastique, hein. Et puis les autres aussi,
les Beatles.
Il y a deux groupes encore dont je parle quelquefois. Qui étaient de vrais
Blues.
Les Who.
Les Who, les Moody Blues.
Les Beatles, quand même, il y en a eu. Il y en a beaucoup.
Jean-Christophe Averty, moi j'ai beaucoup aimé la dernière partie de l'émission, là, ce que vous avez fait avec le bateau ivre. Où est-ce que vous avez trouvé ces gravures?
Eh bien, je pense que j'ai retrouvé la source graphique qui a inspiré Arthur Rimbaud. C'est la balade du vieux marin illustrée par Gustave Doré.
Gustave Doré.
Oui.
Et là où il y a ces espèces de trois mâts.
Non, c'est ces trois mâts. Oui. Ces trois mâts, ces bateaux ivres avec des marins ivres. Et je pense que Rimbaud, je crois même ça très, très sérieusement, a regardé ces gravures quand il était enfant et les a peut-être décrites. Il a fait un collage littéraire sur des images qui lui préexistaient. Quant à Léo Ferré, alors là, il s'est envoyé en l'air, si je puis dire.
Oui, c'est vraiment fantastique. Léo, qu'est-ce que vous avez. Quelle critique vous faites de l'émission de Jean-Christophe?
Aucune.
Non, mais qu'est-ce qui vous a paru le plus réussi et moins?
Tout
est réussi. Bon.
Ou tout raté.
Léo Ferré, il paraît que vous venez bientôt à Paris. Vous avez une tournée en prévision?
Oui, il y a une tournée là maintenant.
À partir de quand?
À partir de, je sais pas, c'est ma femme qui a toutes ces dates, j'en sais rien moi. Ah.
Bon. On va vous revoir bientôt sur scène en tout cas.
Sûrement.
À bientôt Léo.
Qui vous remercie tout. Vous embrassez pour moi Jean-Christophe et Lucien Rioux.
Eh bien, c'est fait.
Je ne connais pas et que j'embrasse de tout mon cœur.
Eh bien, merci et avant.
Je te donne ces vers, afin que si mon nom aborde heureusement aux époques lointaines. C'est tout ce que j'ai lu. En définitive, ce que j'ai compris, j'ai mis ça en musique de Baudelaire, en me disant, comme ça je dirais aux gens, voilà, Baudelaire, je te donne ces vers, c'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Quand j'ai lu, pour l'émission, vraiment de près, très près, cette poésie, je me demandais ce que ça voulait dire, en définitive. À qui parlait-il? Ça, j'ai pas compris. Je ne sais pas à qui il parle. Grand ange au front des reins, statue aux yeux de jais. Et c'est Jean-Christophe Averty qui m'a dit, c'est la mort. Il parle à la mort. Alors, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça m'a étonné, quoi. Et avant, je ne savais pas. Il parle à la mort. C'est rigolo, ça.